Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 16. Nicolas cherche à se placer dans un nouvel emploi et, comme il n'y réussit pas, il entre en qualité de professeur particulier dans une famille. Le lendemain matin, Nicolas n'eut rien de plus pressé que de chercher quelque place où il pût, en attendant des jours meilleurs, gagner au moins sa vie sans se mettre au croc de son hôte. Il ne voulait point abuser du dévouement du pauvre Nudge, qui aurait volontiers couché sur l'escalier pour céder son lit à son jeune ami. Information prise, il se trouva que l'appartement vacant dont l'écriteau pendillait à la fenêtre du parloir se composait, en tout et pour tout, d'une petite chambre au second sur le derrière, sous les plombs, avec la vue d'un paysage de tuiles et de tuyaux de cheminée couleur de suie. C'est le locataire du parloir qui était chargé de la louer à la semaine à des conditions raisonnables. Le propriétaire lui avait donné pourvoir pour la location des appartements vacants et pour veiller à ce que les autres locataires ne missent pas la clé sur la porte sans payer. En retour de son exactitude à remplir ces conditions, il était logé pour rien, précaution sage pour éviter qu'il n'eût quelques jours la tentation lui-même de déménager sans tambour ni trompette. Nicolas s'accommoda de cette chambre et, ayant loué de même quelques menus meubles à un brocanteur du voisinage, en payant une semaine d'avance sur le produit de la vente de quelques habits de rechange dont il fit de l'argent, il se mit sur sa chaise à ruminer des projets pour son avenir, dont l'horizon n'était guère plus clair ni plus étendu que celui de sa fenêtre. Mais comme il ne gagnait rien à faire avec eux plus amples connaissances, et que la familiarité finit, comme on dit, par engendrer le mépris, il prit le parti de leur donner un congé définitif en faisant une bonne promenade. Il prit son chapeau, laissant le pauvre Smic faire des rangements à l'infini dans sa chambre avec autant de délices que s'il eût décoré un palais somptueux, puis alla courir les rues et se mêler à la foule qui les encombre. Quoique ce soit une pensée bien faite pour rabattre chez un homme la confiance qu'il peut avoir dans son importance personnelle, que de sentir son individu perdu au milieu d'une foule, tout occupé à ses affaires, sans faire aucune attention à lui, il n'en reste pas moins dominé, malgré cela, par le sentiment toujours présent de l'importance et de l'exigence pressante de ses intérêts. Nicolas avait beau marcher au pas de course, il était poursuivi d'une seule pensée, il n'avait qu'une idée dans sa tête, le soin de ses propres affaires. Et s'il cherchait à lui donner le change en songeant à la situation et aux nécessités des gens qui le coudoyaient en passant, il se surprenait presque aussitôt à comparer leur condition et la sienne, et à retomber dans l'éternel sujet de ses préoccupations. Absorbé dans ses réflexions, il cheminait le long d'un des courants les plus fréquentés de la population de Londres, lorsqu'il leva les yeux par hasard sur un tableau bleu de ciel où se lisait en lettres d'or « Bureau général de placement pour tout emploi et condition de toute espèce ». S'adresser ici. C'était une boutique sur la rue avec un poste en toile métallique à la fenêtre. La porte dans le corridor et, tout du long des vitres, une riche et séduisante collection d'écriteaux à la main, promettant des places vacantes de tous les degrés, depuis celle du secrétaire jusqu'à celle de saute-ruisseau. Nicolas, par un mouvement instinctif, fit une halte devant ce temple de la déesse Promesse et parcourut des yeux les annonces sans caractère majuscule où toutes les carrières de la vie s'étalaient avec profusion. Quand il eut satisfait sa curiosité, il se remit en route, puis il revint sur ses pas, puis reprit sa course. À la fin, après s'être plusieurs fois arrêté, irrésolu, devant la porte du bureau général de placement, il prit bravement son parti et entra. Il se trouva dans une petite pièce dont le carreau était recouvert d'une toile cirée. Dans un coin s'élevait un bureau séparé du public par un grillage. À ce bureau siégeait un jeune homme décharné avec des yeux égrillards et un menton en galoche. C'était à lui qu'étaient dus les écriteaux en majuscules qui interceptaient le jour de la fenêtre. Il avait, tout ouvert devant lui, un grand registre. Les doigts de sa main droite étaient passés dans les feuillets. Il tenait les yeux fixés sur une dame d'un riche embonpoint, coiffée d'une cornette, et dans laquelle il était facile de reconnaître la propriétaire de l'établissement. Elle prenait un petit air de feu pendant que son secrétaire était dans l'attitude d'un homme qui n'attend plus que ses instructions pour chercher quelque renseignement contenu dans le volume garni de fermoirs rouillés. Comme, parmi les annonces affichées dans la rue, il y en avait une qui faisait connaître au public que, de 10 heures à 4, on était toujours sûr de trouver là des servantes pour tout faire, prêtes à entrer en place, Nicolas vit bien tout de suite qu'une demi-douzaine de robustes jeunes filles, toutes ornées de leurs socs et de leurs parapluies, étaient assises en rang dans un coin, sur une banquette, montaient leur faction dans ce but, d'autant plus que les pauvres femmes avaient l'air passablement ennuyées d'attendre en vain. Il n'était pas aussi sûr de la condition et des intentions de deux demoiselles assez éveillées qui faisaient auprès du feu la conversation avec la propriétaire. Mais il ne fut pas longtemps dans le doute, car après qu'il se fut assis dans un coin, annonçant le désir d'attendre son tour, la dame grosse et grasse reprit le dialogue qu'il avait interrompu par son entrée dans la salle. « Cuisinière, Tom, » dit-elle sans se déranger et continuant de prendre un petit air de feu en relevant sa robe. « Cuisinière, » dit Tom feuilletant quelques pages du registre, « j'y suis. « Lisez-nous une ou deux bonnes places, » dit la grosse dame. « Choisissez-en une où il n'y a pas grand-chose à faire, s'il vous plaît, jeune homme, » demanda une petite femme d'assez bonne tournure, en bottine écossaise, qui paraissait être intéressée à la chose. « Madame Marker, » dit Thomas, lisant dans son registre, « place Russell, Russell Square, gage 450 francs, le thé et le sucre, 2 mètres. On reçoit peu de monde, il y a 4 domestiques. » Pas d'homme, on ne laisse pas entrer les pays. Ah, ciel ! Dit la petite cliente qui avait bien envie de rire. Ça ne peut pas me convenir. Une autre, s'il vous plaît, jeune homme. Madame Vrimeug, place Pleasant, Finsbury, gage 300 francs, ni thé, ni sucre, une famille rigide. Ah ! « Vous pouvez vous épargner la peine de continuer, » interrompit la demoiselle. « 3 valets de pied rigides aussi, » lut Tom en appuyant sur ce détail. « 3, dites-vous ? » demanda la cliente avec intérêt. « 3 valets de pied rigides, cuisinière, femme de chambre, bonne d'enfant, les femmes doivent suivre les exercices de la petite congrégation de Bethel 3 fois tous les dimanches, avec 1 valet de pied rigide. » Si la cuisinière est plus rigide que le valet de chambre, on demande qu'elle forme le valet de chambre. Si le valet de chambre est plus rigide que la cuisinière, il devra lui rendre le même service. « Je vais prendre l'adresse de cette place, » dit la postulante. « Il ne serait pas impossible que ce fût mon affaire. » « En voilà une autre, » observa Tom tournant la page. « Famille de Monsieur Galambille, membre du Parlement, 375 francs, « Thé et sucre. On permet à la cuisinière de recevoir des cousins s'ils sont religieux. N.B. Dîner froid à la cuisine le dimanche. Monsieur Galambille étant fidèle observateur de la loi du dimanche. On ne fait pas un seul plat chaud ce jour-là, excepté le dîner de Monsieur et Madame Galambille, qui a obtenu dispense à titre d'urgence et de piété. » Monsieur Galambille dîne tard exprès le saint jour du repos pour empêcher la cuisinière de faire un péché en faisant ce jour-là sa toilette. J'ai idée que celle-là ne m'irait pas aussi bien que l'autre, dit la demoiselle après avoir échangé quelques mots à voix basse avec sa camarade. Je vais prendre l'autre adresse, s'il vous plaît, jeune homme. J'en serai quitte pour revenir si ça ne s'arrange pas. Tom écrivit l'adresse qu'on lui avait donnée, et la bonne élégante se retira en compagnie de sa camarade, après avoir eu soin toutefois de payer à la grosse dame ses petits honoraires. Au moment où Nicolas ouvrait la bouche pour demander au jeune homme de chercher la lettre S et de lui énumérer toutes les places de secrétaire encore disponibles, il vit entrer dans le bureau une solliciteuse nouvelle dont l'extérieur lui inspira à la fois de l'étonnement et de l'intérêt. Il se retira immédiatement de côté pour lui céder son tour. C'était une demoiselle qui pouvait avoir 18 ans, d'une taille mince et délicate, mais faite à ravir. Elle s'avança timidement vers le bureau et s'informa tout bas d'une place de gouvernante ou de dame de compagnie. Pour mieux s'expliquer, elle fut obligée de soulever son voile un moment, et ce fut assez pour laisser voir un visage d'une beauté peu commune, quoique obscurci par quelques nuages de tristesse, circonstance plus surprenante encore à raison de sa jeunesse. On lui donna une des adresses inscrites sur le registre, et elle s'esquiva sur la pointe des pieds après la cérémonie d'usage à la grosse dame. Elle était vêtue proprement, mais très simplement. Si simplement que, si quelque jeune fille moins gracieuse eût porté son costume, elle y aurait perdu beaucoup et peut-être aurait semblé mesquin et misérable. Sa domestique, car elle en avait une avec elle, était une grosse rougeaude assez malpropre, des yeux à fleur de tête, des bras marbrés et rugueux, mais cachés sous un châle qui avait l'air d'avoir traîné dans la crotte, la figure mal lavée, encore tatouée de charbon et de mine de plomb. C'était, à ne pas pourvoir s'y méprendre, une servante de l'espèce des bonnes à tout faire qui était là, rangée sur le banc, et qui avait échangé avec elle des grimaces et des œillades qui font partie sans doute des signes cabalistiques de la franc-maçonnerie de l'État. Elle suivit sa maîtresse, qui avait déjà disparu avant que Nicolas fût remis des premiers effets de sa surprise et de son admiration. Je ne voudrais pas parier qu'il ne se fût pas mis à les suivre s'il n'avait pas été retenu par la curiosité d'entendre le dialogue suivant entre la grosse dame et le teneur de livre. « Quand revient-elle, Tom ?» demanda la grosse dame. « Demain matin, » répondit Tom en taillant sa plume. « Où l'avez-vous adressée ?»« Chez Madame Clark. » « Elle aura là une jolie petite place si elle y va, » observa la grosse dame et prenant une prise dans sa tabatière d'étain. Tom, pour toute réponse, souleva sa joue avec sa langue. Il fit ressouvenir la grosse dame qu'elle avait à lui adresser la question ordinaire. « Et vous, monsieur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous ?» Nicolas répondit en peu de mots qu'il désirait savoir si on pouvait lui procurer un poste de secrétaire ou de copiste chez un gentleman. « Rien qu'un ?» répondit la bourgeoise. « Et une douzaine, si vous voulez. En avez-vous, Tom ?»
« Je crois que oui, » répondit le scribe.
Et en même temps, il clignait de l'œil du côté de Nicolas avec une familiarité qu'il supposait sans doute très flatteuse pour celui qui l'honorait de ses avances, mais qui n'excita chez Nicolas qu'ingratitude et dégoût. Après avoir consulté le livre, on découvrit que la douzaine de secrétariats vacants ne se réduisait à un. Chez M. Gregsbury, l'illustre membre du Parlement demeurant cité Manchester, à Westminster. Il voulait un jeune homme pour mettre en ordre ses papiers et sa correspondance. Nicolas était justement l'affaire de M. Gregsbury. « Je ne connais pas bien les honoraires parce qu'il préfère s'arranger directement avec la personne, » dit la grosse dame. « Mais je suppose qu'il ne doit pas être mauvais puisque c'est un membre du Parlement. » Avec son peu d'expérience du monde, Nicolas ne comprit pas bien la force de ce raisonnement et ne trouva pas la conclusion tout à fait rigoureuse. Mais, sans vouloir se donner la peine d'élever là-dessus une discussion, il prit l'adresse et se décida à aller trouver M. Gregsbury sans délai. « Je ne sais pas le numéro, » dit Tom, « mais la cité Manchester n'est pas bien grande. Au pis, allez, vous n'en aurez pas pour longtemps à frapper à droite et à gauche à toutes les portes jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. » Dites donc, quel joli brin de fille, hein ?
Quelle fille ? Demanda Nicolas d'un air sérieux.
Bon, bon, nous savons bien. Une jolie fille, hein ? Lui dit Tom à l'oreille, fermant un œil et retroussant en l'air la pointe de son menton.
Vous ne l'avez donc pas vue, hein ? Vous voudriez bien être à ma place pour la recevoir demain matin.
Nicolas regarda le hideux commis comme s'il avait eu un moment l'intention de lui frotter les oreilles avec son registre, pour lui apprendre à se montrer ainsi l'admirateur de la demoiselle. Mais il se retint et se contenta de prendre un air hautain et de sortir à grands pas du bureau. Il oubliait, dans son indignation, les lois de l'ancienne chevalerie qui faisaient à tout bon chevalier un devoir impérieux d'entendre l'éloge de la dame de leur pensée, et lui imposait même l'obligation d'aller errer dans tout l'univers, cassant la tête à tous les personnages positifs et prosaïques qui refusaient d'élever jusqu'au ciel des demoiselles qu'il n'avait jamais eu le bonheur de voir et dont il n'avait jamais entendu parler. Voyez un peu la belle excuse pour refuser son enthousiasme. Nicolas, distrait de ses propres malheurs par la pensée de ceux dont la jolie fille qu'il avait vue paraissait être victime, après bien des tours et des retours, après avoir souvent demandé et perdu son chemin, finit par arriver devant l'endroit où on l'avait adressé. Dans l'enceinte de la vieille cité de Westminster, environ à quelques centaines de pas de son antique sanctuaire, est un quartier étroit et sale, résidence aujourd'hui des membres les moins importants du Parlement. Il ne se compose que d'une rue, formée de deux rangées de tristes maisons louées en garnies, dont toutes les fenêtres, pendant les vacances législatives, fournissent leur tribut à cette collection mélancolique d'écriteaux uniformes qui, remplaçant de leur mieux leurs anciens locataires, membres de l'opposition ou partisans du gouvernement, pendant la session qui vient d'aller retrouver ses ancêtres, semblent dire, comme eux, « Allouez, allouez !» Mais quand la saison des affaires est revenue, on ne voit plus d'écriteaux et les maisons regorgent de législateurs. Législateurs en bas, législateurs en haut, législateurs au premier, au second, au troisième étage et jusque dans les galetas. Pas un petit cabinet qui n'ait un fumet de députations et de délégués. Dans les temps humides, tout le quartier est englouti dans des nuages de vapeur qui s'exhalent des actes du Parlement et des pétitions revêches qui moisissent dans des cartons. Les courriers de la poste risquent de se trouver mal quand ils pénètrent dans ces brouillards infects. Et l'on voit errer, ça et là, des figures piteuses, avides de profiter des franchises de la correspondance officielle, comme les âmes en peine qui errent sur les rivages du Styx pour obtenir gratis le passage au sombre bord. C'est là ce qu'on appelle la cité Manchester. C'est là qu'à toutes les heures de la nuit, on entend tourner dans leurs serrures respectives le passe-partout de messieurs du Parlement quand ils rentrent de leur club ou de leurs autres lieux de plaisir. Parfois aussi, quand une bouffée de vent balaye les eaux qui baignent le pied de ces murs et concentre le son dans cette longue enfilade, il fait retentir la voix grêle et perçante de quelque jeune orateur qui répète son rôle pour la séance du lendemain. C'est là que, tout le long du jour, des orgues de barbarie tournent leurs meules et que toutes les petites boîtes à musique inventées pour les artistes ambulants font entendre leur clapotage. Manchester ressemble assez bien à ces engins pour prendre les anguilles qui n'ont d'autre issue que leur bouche en forme d'entonnoir, ou à des bouteilles de matelot, aux goulots courts et étroits. Et, à cet égard, on pourrait y voir l'image fidèle de la destinée, réservée à quelques-uns de ces infortunés habitants qui, après s'être tortillés dans le Parlement, en toutes sortes de contorsions et d'effets violents, trouvent, au bout du compte, qu'ils se sont enfoncés dans un cul-de-sac qui ne mène à rien, absolument comme cité Manchester, qui n'aboutit qu'à elle-même. Trop heureux quand ils peuvent en sortir sans autres encombres que de se retrouver aussi incapables, aussi gênés, aussi obscurs qu'ils y étaient entrés. Nicolas pénétra donc dans cité Manchester avec l'adresse du grand monsieur Gregsbury. En voyant un flot d'individus se précipiter dans une maison voisine de chétive apparence, il attendit qu'ils se fussent écoulés, puis, se présentant au domestique qui gardait la porte, il prit la liberté de lui demander s'il savait où demeurait monsieur Gregsbury. Le domestique était un garçon dont la pâleur et l'extérieur misérable pouvaient faire croire que, depuis son bas âge, il n'avait jamais couché que dans le sous-sol, et ce n'était que trop vrai. « Monsieur Gregsbury, dit-il, c'est ici que demeure monsieur Gregsbury. C'est bon, vous pouvez entrer. » Nicolas ne se le fit pas dire deux fois, et il ne fut pas plus tôt entré que le garçon ferma la porte et disparut. La réception était assez singulière, mais ce qu'il y avait de plus embarrassant, c'est que, tout le long du corridor et tout le long de l'étroit escalier qui masquait la fenêtre et rendait plus sombre encore l'entrée obscure de la maison, était une masse confuse de personnes dont les figures annonçaient une mission importante. Ils avaient l'air d'attendre, avec une impatience silencieuse, quelques événements intéressants. De temps en temps, l'un d'eux parlait à l'oreille de son voisin, ou bien un petit groupe se réunissait pour se parler ensemble à l'oreille, ou bien ces parleurs mystérieux se faisaient l'un à l'autre des signes de tête résolus ou la secouaient d'un air déterminé, comme s'ils étaient décidés à faire quelques scènes et à ne pas se laisser ébranler quoi qu'il pût arriver. Quelques minutes s'écoulèrent sans que rien ne pût expliquer cette énigme. Et déjà Nicolas, qui se trouvait mal à son aise dans cette situation équivoque, allait prendre quelque information près de son voisin, lorsqu'un mouvement subit se manifesta en haut de l'escalier et l'on entendit une voix crier. « Allons, messieurs, ayez la bonté de monter !» Au lieu de monter, les gentlemen de l'escalier se mirent à descendre avec une grande rapidité et pressèrent avec une extraordinaire politesse les gentlemen du corridor de marcher les premiers. Les gentlemen du corridor, qui n'étaient pas moins polis, ne voulaient pas du tout accepter cet honneur. Mais ils y furent bien obligés malgré eux, lorsque les autres gentlemen qui faisaient la presse devant eux en poussèrent une demi-douzaine parmi lesquels était Nicolas, et les forcèrent par derrière, non seulement à monter l'escalier, mais à entrer dans le salon même de monsieur Gregsbury, où ils furent jetés, pêle-mêle, dans une confusion indécente, et, sans aucun autre moyen, de battre en retraite. Car la foule, qui les suivait, avait déjà rempli la pièce. « Messieurs, dit monsieur Gregsbury, « soyez les bienvenus. Je suis charmé de vous voir. » Pour un homme charmé de voir la nombreuse société qui lui rendait visite, M. Gregsbury avait l'air aussi contrarié que possible. Mais peut-être n'était-ce qu'un effet de sa gravité parlementaire et la suite de l'habitude que les hommes d'État comme lui sont obligés de prendre, de dissimuler leurs sentiments. C'était un homme épais, replet, à grosse tête, à voix forte, empesé dans ses manières avec une grande facilité pour dire des choses qui ne voulaient rien dire. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon membre du Parlement, sans aucun doute. « Eh bien, messieurs, dit M. Gregsbury, jetant à ses pieds dans un panier d'osier un tas de papiers et se renversant dans son fauteuil, les coudes appuyés et les bras relevés. « Vous n'êtes pas content de ma conduite à ce que je vois dans les journaux. »« Non, monsieur Gregsbury, dit un vieux monsieur frais et dodu qui perça la foule d'un air déterminé et vint se placer devant lui. « Quoi ? Mes yeux me trompent-ils ? Dit monsieur Gregsbury regardant l'orateur. « Est-ce bien mon vieil ami Puck Steels que je vois ?
C'est bien moi, moi-même, répondit le vieux monsieur frais et dodu.
« Donnez-moi la main, mon honorable ami, » dit monsieur Gregsbury. « Puck Steels, mon cher ami, je suis bien désolé de vous voir ici. »
Et moi, bien désolé d'y être, monsieur, dit monsieur Pugstyle. C'est votre conduite, monsieur Gregsbury, qui a rendu cette démarche absolument nécessaire de la part de vos commettants.
Ma conduite, Pugstyle, dit Gregsbury, promenant ses regards sur la députation avec autant de grâce que de magnanimité.
Ma conduite a été, comme elle le sera toujours, dirigée par un respect sincère des intérêts vrais et réels de ce grand et fortuné pays. Que je regarde chez nous ou à l'étranger, que je considère les paisibles et industrieuses communes de notre royaume insulaire, ces rivières sillonnées par des bateaux à vapeur, ces chemins de fer couverts de locomotives, ces rues qui fourmillent de voitures publiques, son firmament de ballons d'une grandeur et d'une puissance inconnue dans l'histoire des aéronautes du monde entier. En un mot, que je concentre mes regards sur ma patrie, ou que, les étendant plus loin, je contemple l'horizon sans bornes des conquêtes et des établissements dus à la patience britannique qui se déroule devant moi, je ne puis m'empêcher, dans mon admiration, de joindre les mains avec extase, de lever les yeux vers la voûte céleste au-dessus de ma tête et de m'écrier « Je rends grâce au ciel d'être un enfant de la Grande-Bretagne. »
Il fut un temps où cet élan d'enthousiasme aurait trouvé un écho dans tous les cœurs de ses orateurs. Mais, pour le moment, la députation l'accueillit par un air de froideur glaciale. On semblait généralement croire que cette explication de la conduite politique de M. Gregsbury péchait au moins par le défaut de détails. Il y eut même un gentleman au fond de la salle qui ne se fit pas scrupule d'observer à haute voix qu'à son avis, cette justification sentait un peu la blague.
« Voilà un mot, la blague !» dit M. Gregsbury, dont je ne connais pas la signification. « Si l'on veut dire par là que je suis un peu trop ardent, peut-être même hyperbolique dans mon admiration pour mon pays natal, j'accepte ce reproche. » Je puis l'avoir mérité. Oui, je suis fier de ce pays de bonheur et de liberté. Mon œil brille, ma poitrine se dilate, mon cœur se gonfle, mon sein s'enflamme, mon être entier se transforme toutes les fois que je songe à sa grandeur et à sa gloire.
Nous voudrions, monsieur, reprit monsieur Pugstyle plus calme, vous adressez seulement quelques questions.
Volontiers, mes chers amis. Mon temps est à vous et à mon pays, dit M. Gregsbury.
Après cette permission, M. Pugstyle mit ses lunettes et tira de sa poche un morceau de papier sur lequel se trouvait écrit le programme de la séance. Presque tous les autres membres de la députation mirent aussi la main à la poche pour en tirer leur papier, sans doute dans l'intention de suivre et, au besoin, de rectifier la lecture que M. Pugstyle allait faire des questions convenues. Cela fait, M. Pugstyle entra en matière. Question première. On demande si vous n'avez pas, monsieur, pris, avant votre élection, l'engagement volontaire que, dans le cas où vous seriez envoyé à la Chambre, vous aboliriez immédiatement l'habitude de tousser et de grogner dans les séances des communes. Et si, au contraire, vous n'avez pas souffert que l'on toussât et que l'on grogna contre votre premier discours, dès le début même de la session. Et s'il est vrai que, depuis lors, vous n'avez pas fait le moindre effort pour obtenir une réforme à ce sujet. Si vous ne vous étiez pas aussi engagé à frapper le gouvernement de stupeur et à le mettre dans ses petits souliers. On demande si vous l'avez frappé de stupeur et si vous l'avez mis dans ses petits souliers, oui ou non. « Voulez-vous passer à la seconde, mon cher Pugstyle ?» dit M. Gregsbury. « Avez-vous, monsieur, quelque explication à donner sur ce point ?» demanda M. Pugstyle. «
Certainement non, » répondit M. Gregsbury.
Les membres de la députation se regardèrent les uns les autres, puis regardèrent M. Gregsbury avec des yeux pleins de courroux. Le cher Pugstyle, après avoir lui-même longtemps, fixé les yeux sur M. Gregsbury par-dessus ses lunettes, reprit la liste de questions. Question deuxième. Si vous n'avez pas aussi, monsieur, pris également un engagement volontaire de soutenir votre collègue en toute occasion, et si vous ne l'avez pas, au contraire, avant-hier soir, abandonné pour voter contre lui, parce que la femme de l'un des chefs du parti contraire avait invité Madame Gregsbury à ses soirées. Continuez, dit Monsieur Gregsbury. Vous n'avez rien non plus à répondre à cela, monsieur ? Demanda l'orateur.
Pas la moindre chose, répondit Monsieur Gregsbury.
La députation, qui ne l'avait jamais vu dans les assemblées préparatoires le jour de l'élection, fut stupéfiée de sa froideur et ne le reconnaissait plus. Quoi ? C'était cet homme tout sucre et tout miel dans les élections qu'elle voyait aujourd'hui tout fiel et tout vinaigre ? Ah, comme les temps changent les hommes !
Question troisième et dernière, dit M. Pigstiles en appuyant sur ces mots.
Si vous n'avez pas déclaré, monsieur, sur les Hustings, votre ferme et inflexible résolution de vous opposer à tout ce que l'on viendrait à proposer, de diviser la Chambre sur toutes les questions, de faire des motions d'ajournement à tout propos, d'avoir tous les jours un amendement au procès-verbal. En un mot, pour conserver vos propres expressions, dont nous avons gardé la mémoire, de faire le diable, en tout et pour tout. En terminant ce réquisitoire détaillé, M. Pigstiles plia sa note et la remit dans sa poche, comme firent aussitôt tous ses amis à son exemple. M. Gregsbury se mit à réfléchir, se moucha, s'enfonça davantage dans son fauteuil, puis se rapprocha de la table, y posa ses coudes, fit un triangle composé de ses deux pouces et de ses deux index, et, se tapant gentiment le nez avec le sommet du triangle, répondit, il ne put s'empêcher de rire, « Je nie tout !» À cette réponse inattendue, un murmure d'horreur s'éleva du sein de la députation, et le même gentleman qui avait exprimé ses doutes sur le caractère blaguiforme de l'exorde de M. Gregsbury, fidèle à ses habitudes monosyllabiques, prononça cette fois en grognant le mot de « démission ». Démission, mot terrible qui fut aussitôt prononcé par ses voisins, et finit par devenir comme le mot d'ordre général de l'Assemblée, en proie à une grande agitation. « Je suis aussi chargé, monsieur, dit monsieur Pigstiles avec une révérence cérémonieuse, de vous exprimer notre espérance que, sur la demande d'une majorité considérable de vos commettants, vous ne ferez aucune difficulté de donner votre démission en faveur de quelques candidats qu'ils jugent plus dignes de leurs espérances. » Pour toute réponse, M. Gregsbury se mit à lire la réplique suivante, qu'il avait à l'avance composée sous forme de lettres et dont il avait déjà un grand nombre de copies toutes prêtes pour être envoyées aux journaux. « Mon cher Pugstiles, après la prospérité de notre île bien-aimée, ce pays de bonheur et de liberté dont les facultés et les ressources sont, dans ma conviction, sans limite, il n'y a rien qui me soit plus cher que cette noble indépendance, le plus fier privilège d'un cœur vraiment anglais, et mon plus vif désir est de le léguer à mes enfants, sans honte et sans tâche. Ce n'est donc point par des motifs personnels, mais par de hautes et respectables considérations constitutionnelles que je n'essaierai pas de vous expliquer, parce qu'elles ne sont réellement pas à la portée de personnes qui n'ont pas été à même, comme moi, d'étudier à fond les secrets mystérieux de la politique, que je préfère garder mon siège au Parlement, comme j'ai bien l'intention de le faire. Voulez-vous bien être assez bon pour présenter mes compliments au corps électoral et lui communiquer ma résolution ? Je suis avec une grande estime, mon cher Pugstiles, etc., etc.
C'est donc à dire que vous n'êtes pas décidé à donner votre démission ? Demanda l'orateur.
Monsieur Gregsbury sourit et branla la tête pour confirmer son refus.
Alors, « Bonjour, monsieur !» dit Pugstyles avec colère. « Que Dieu vous conduise !» dit monsieur Gregsbury. Et la députation, tout en grondant et en grognant, se mit à décamper, aussi vite qu'elle put, le long de l'escalier étroit qui retardait sa marche. Quand ils furent tous partis jusqu'au dernier, monsieur Gregsbury se frotta les mains et poussa de grands éclats de rire, comme fait un farceur qui croit avoir à se réjouir de quelques bons mots ou de quelques bons tours dont il s'est fait honneur. Dans l'enivrement de son amour-propre satisfait, il n'avait pas encore remarqué Nicolas, caché dans l'ombre des rideaux de la fenêtre, lorsque ce jeune homme, craignant de surprendre sans le vouloir quelques soliloques qui n'étaient point destinés à la publicité, toussa deux ou trois fois pour attirer l'attention du membre du Parlement. Qui est-ce qui est donc là ? Dit monsieur Gregsbury avec vivacité. Nicolas s'avança et lui fit un salut. Que faites-vous ici, monsieur ? Venez-vous espionner ma vie privée ? Jouer le rôle de dénonciateur domestique ? Vous avez entendu ma réponse, monsieur ? Faites-moi le plaisir de suivre la députation. C'est ce que j'aurais déjà fait si j'en étais, mais je n'en suis pas, dit Nicolas. Alors, comment vous trouvez-vous ici, monsieur ? Demanda d'abord tout naturellement monsieur Gregsbury, MDP. Et d'où diable venez-vous, monsieur ? Fut sa seconde question. On m'a donné cette adresse au bureau général de placement, monsieur, dit Nicolas, et je venais m'offrir à vous pour secrétaire, sachant que vous en demandez un. Et vous n'êtes pas venu pour autre chose, je suppose ? Dit monsieur Gregsbury qui le toissa avec un air de doute. Nicolas répondit que c'était le seul but de sa visite. « Vous n'avez rien de commun avec ces gredins de journaux, n'est-ce pas ?» dit monsieur Gregsbury. « Et vous ne vous êtes pas glissé ici pour écouter ce que l'on avait à dire et pour l'imprimer après ?»« Mon Dieu !» répondit Nicolas avec politesse, mais avec assurance. « J'ai le regret de me voir obligé d'avouer que je n'ai de relation aucune avec personne pour le moment. »« Oh !» dit monsieur Gregsbury. « Comment donc êtes-vous monté jusqu'ici ?» Nicolas raconta comment il avait été emporté par le courant de la députation. « Si c'est comme cela, » dit monsieur Gregsbury, « asseyez-vous. » Nicolas prit une chaise et monsieur Gregsbury, avant de lui en demander plus long, resta quelque temps à le considérer, pour s'assurer sans doute que son extérieur ne laissait pas à désirer. À la fin, il se décida à lui dire « Vous voulez être secrétaire chez moi ?» « Je désirerais, monsieur, m'attacher à vous en cette qualité. »« Bien, » dit monsieur Gregsbury. « Que savez-vous faire ?»« Je suppose, » répondit Nicolas en souriant, « que je sais faire ce qu'ont l'habitude de faire les autres secrétaires. »« Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont à faire ?» demanda monsieur Gregsbury. « Ce qu'ils ont à faire ?» répondit Nicolas. « Oui, ce qu'ils ont à faire !» reprit le membre du Parlement qui le regardait d'un air narquois, la tête penchée sur son épaule. Les fonctions de secrétaire sont assez difficiles à définir, ce me semble, dit Nicolas réfléchissant. Elles comprennent, je présume, la correspondance. Bien ! La mise en ordre des papiers et documents. Très bien ! Au besoin, l'écriture sous votre dictée. Et peut-être, monsieur, dit Nicolas avec un demi-sourire, la copie de votre discours du jour pour quelques feuilles publiques, lorsque vous en aurez fait un d'une importance particulière. « Certainement, » répondit monsieur Gregsbury. « Et puis après ?»« J'avoue, » dit Nicolas, après quelques moments de réflexion, « que je ne trouve plus dans ma mémoire d'autres attributions pour un secrétaire, si ce n'est l'obligation générale de se rendre aussi utile et aussi agréable qu'il peut l'être à son patron, sans sacrifier sa propre dignité et sans dépasser la limite de ses devoirs, que son titre même semble ordinairement impliquer. » Monsieur Gregsbury regarda fixement Nicolas pendant quelque temps. Puis, jetant autour de la chambre un regard circonspect, il lui dit d'une voix contenue « C'est tout à fait cela, monsieur. Comment vous appelez-vous ? » « Nickleby. » « C'est tout à fait cela, monsieur Nickleby. » Et parfaitement énoncé. Au moins pour les devoirs que vous avez définis. Mais il en est encore d'autres. Il en est, monsieur Nickleby, que le secrétaire d'un personnage parlementaire ne doit jamais perdre de vue. Il faudra me mâcher la besogne. « Pardon, monsieur ?» dit Nicolas, ne comprenant pas précisément la chose. Me mâcher la besogne, monsieur ? Répéta monsieur Gregsbury.
Voulez-vous bien m'excuser, monsieur, si je vous demande ce que vous entendez par là ? Dit Nicolas.
Ce que j'entends, monsieur, est parfaitement clair, répondit monsieur Gregsbury avec un air solennel.
Mon secrétaire doit posséder la politique étrangère de tous les États, en suivre les reflets dans les journaux, parcourir des yeux tous les comptes rendus des réunions publiques, tous les premiers paris, et les procès-verbaux des diverses sociétés, prendre, chemin faisant, des notes sur les points qui lui paraissent propres à donner de l'intérêt à une petite tirade qui serait prononcée à propos d'une pétition déposée sur le bureau ou de quelques incidents pareils. Vous comprenez ?
Je le crois, monsieur, répondit Nicolas.
Et puis, dit monsieur Gregsbury, il devrait aussi, jour par jour, prendre connaissance des accidents de la veille dans les journaux du matin. Lire, par exemple, les disparitions mystérieuses ou suicides supposés d'un enfant employé dans les poteries ou quelque autre aventure de ce genre, sur laquelle je puisse fonder une question adressée de ma place au ministre de l'Intérieur. Puis, il copierait la question avec quelques mots de la réponse du ministre. On y trouverait l'occasion naturelle de m'adresser un petit compliment sur mon esprit d'indépendance, le bon sens de mes observations. Puis, on enverrait le tout franc de port à la feuille locale, avec une douzaine de lignes en tête, pour rappeler que je suis toujours à mon poste, toujours prêt à faire face, sans reculer d'une semelle, au devoir de la responsabilité la plus délicate, et ainsi de suite. Vous entendez ?
Nicolas s'inclina par forme de réponse.
De plus, continua monsieur Gregsbury, je lui demanderai de temps en temps de lire quelques-uns des tableaux qui accompagnent les rapports officiels et d'en extraire quelques résultats généraux, de manière à me mettre à même de me tirer avec honneur, par exemple, des questions sur l'emploi des bois de charpente, sur les finances, etc. J'aimerais assez qu'il me fournisse quelques bons petits arguments sur les effets désastreux du paiement en numéraire, et sur les cours métalliques qu'on éclairerait ça et là par quelques excursions sur l'exportation des métaux et aussi sur des billets de banque, et sur toutes ces choses enfin dont il suffit de parler avec une certaine facilité parce que personne ne les comprend. Saisissez-vous bien ?
Je crois comprendre, dit Nicolas.
En ce qui concerne les questions qui ne sont pas politiques, continua M. Gregsbury avec chaleur, et dont on ne peut demander à un homme de s'occuper d'une manière assez sérieuse, pour vouloir donner aux classes inférieures autant de bien-être qu'à nous-mêmes, car autrement, que deviendraient nos privilèges ? Je voudrais que mon secrétaire me fît une petite collection de discours de parade d'un caractère patriotique. Par exemple, si l'on avait la malheureuse idée de proposer un bill pour assurer le droit de propriété d'un tas de pauvres diables comme les auteurs, j'aimerais assez à défendre cette thèse, que pour ma part je ne consentirai jamais à élever une barrière insurmontable à la diffusion de la littérature dans le peuple. Vous comprenez ? Que les créations matérielles n'étant que des spéculations d'un intérêt purement industriel, peuvent être considérées comme la propriété d'un homme ou d'une famille, mais que les créations intellectuelles, étant d'inspiration divine, appartiennent véritablement au peuple en général. Et même, si je me sentais ce jour-là d'humeur badine, je ne craindrais pas d'entremêler tout cela de quelques plaisanteries sur la postérité. De dire que des hommes qui ont écrit pour la postérité doivent être satisfaits d'obtenir comme récompense l'approbation de la postérité. Cela ne prendrait peut-être pas mal à la chambre, et, dans tous les cas, ne ferait aucun tort, car il n'y a pas à craindre que la postérité s'inquiète ni de moi, ni de mes plaisanteries. Vous voyez ?
Je vois bien, monsieur, répliqua Nicolas.
Surtout en pareil cas, vous ne devez jamais oublier, là où nos intérêts ne peuvent pas en souffrir, de parler souvent du peuple, parce que c'est d'un merveilleux effet à l'époque des élections. Ce n'est pas comme les auteurs dont vous pouvez rire tout à votre aise, vu que la plupart d'entre eux vivent en garni et par conséquent n'ont pas le droit de voter. Voilà donc un aperçu rapide des points principaux qui intéressent votre fonction, excepté que vous aurez à rester tous les soirs dans les couloirs de la chambre, dans le cas où j'aurais oublié quelque chose et où il faudrait me la remonter à nouveau. Vous feriez bien encore,
pendant les grands débats de la chambre d'aller de temps en temps vous asseoir sur les premiers bancs des tribunes pour dire à vos voisins « Voyez-vous, ce gentleman qui porte sa main droite à la figure et qui embrasse de la gauche le pilier en face de nous, c'est Monsieur Gregsbury, le célèbre Monsieur Gregsbury. Et il ne vous en coûterait pas davantage d'y joindre quelques petits éloges, d'après l'inspiration du moment. » « Pour salaire, » ajouta Monsieur Gregsbury, tournant bride avec une grande rapidité, car il était presque hors d'haleine. « Pour salaire, je peux vous le dire tout de suite en nombre rond pour éviter tous mes comptes. » Quoique ce soit plus que je n'ai l'habitude de donner, ce sera 18 francs, 75 centimes par semaine en tout. Voilà. Après cette offre magnifique, M. Gregsbury se rejeta de nouveau en arrière dans son fauteuil comme un homme qui se reproche de faire des folies, mais qui n'en est pas moins décidé à ne point revenir sur ses libéralités excessives. 18 francs 75 par semaine? Ce n'est pas beaucoup, dit Nicolas timidement.
« Pas beaucoup ? 18 francs 75 par semaine ? Pas beaucoup, jeune homme ?»
cria M. Gregsbury.
« 18 francs 75 par... »«
Je serais fâché que vous puissiez croire, » reprit Nicolas, « que je veux marchander votre prix, car je vous avouerai sans honte que, si maudit qu'il puisse être en lui-même, c'est encore beaucoup pour moi. Mais les devoirs et la responsabilité des fonctions sont tellement hors de proportion avec le traitement... Et il me paraissait si laborieux que je crains de m'y dévouer.
Est-ce un refus, monsieur ?
Demanda M. Gregsbury, portant la main au cordon de la sonnette. J'ai peur, monsieur, quelle que soit ma bonne volonté, que ce ne soit au-dessus de mes forces, répondit Nicolas.
Mieux vaut dire tout de suite que vous n'acceptez pas l'emploi, et que vous regardez 18 francs 75 par semaine comme trop peu de choses,
dit M. Gregsbury, tirant le cordon de la sonnette.
Refusez-vous, monsieur ?
« Je n'ai pas d'autre alternative, » dit Nicolas.
« Mathieu, la porte !»
dit M. Gregsbury au garçon qui venait de répondre au coup de sonnette. « Je suis fâché de vous avoir dérangé inutilement, monsieur, » dit Nicolas.
« Et moi aussi !» reprit M. Gregsbury en lui tournant le dos. « Mathieu, la porte !»«
Bonjour, monsieur. »«
Mathieu, la porte !» cria M. Gregsbury.
Le garçon fit signe à Nicolas. Et passant devant lui sans façon pour descendre l'escalier, lui ouvrit la porte et le mit dans la rue. Nicolas, triste et pensif, reprit le chemin de la maison. Smic avait composé un petit repas des restes du souper de la veille et attendait son retour avec impatience. Les incidents de la matinée n'avaient pas stimulé l'appétit de Nicolas. Il ne fit pas d'honneur au dîner. Il était là, assis dans l'attitude de la réflexion, ayant devant lui encore intacte son assiette, que son pauvre camarade ne cessait de remplir des morceaux qu'il croyait les plus délicats, lorsque Newman Nudge entra dans la chambre.
« De retour ?» demanda Nudge.
« Oui, » répondit Nicolas, « et je suis sur les dents. Mais ce qu'il y a de pis, c'est que j'aurais aussi bien fait de rester à la maison.
On ne peut pas espérer de faire grand-chose dans une matinée. »
dit Newman. C'est possible, mais je suis un peu vif et je m'attendais à mieux. Mon désappointement n'en est que plus grand. Là-dessus, Nicolas fit à Newman le récit de ses aventures. Si je pouvais seulement me procurer quelque chose, la moindre chose avant le retour de Ralph, afin d'avoir le plaisir de lui parler en face, je me sentirais plus à l'aise. Dieu sait si je regarde le travail comme un déshonneur. Bien au contraire. Ce qui m'ennuie, c'est de me voir flâner, là, à ne rien faire, comme un animal inutile.
« Je ne sais pas, » dit Newman, « c'est si peu de choses. Cependant, cela paierait le loyer, quelque chose de plus. Mais vous n'aimeriez pas cela. Non, on ne peut pas vous proposer de l'entreprendre. Non, décidément non.
Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas me proposer d'entreprendre ? » demanda Nicolas en relevant la tête.
« Montrez-moi dans ce vaste désert de Londres quelques moyens honnêtes de gagner seulement le loyer de ce misérable réduit, et vous verrez si je recule. Que puis-je craindre ? Ah, croyez-moi, mon ami, j'ai passé de trop rudes épreuves pour faire l'orgueilleux ou le délicat. Je n'en accepte, » ajouta-t-il à la hâte, après un court silence, « je n'en accepte que cette délicatesse qui constitue l'honnêteté et l'orgueil qui se fondent sur l'estime de soi-même. » Du reste, Je ne vois pas grande différence entre le malheur de servir d'auxiliaire à un pédant brutal ou d'avaler des couleuvres au service d'un parvenu bas et isolant, fût-il ou non membre du Parlement.
Je ne sais vraiment pas si je dois ou non vous parler de ce que j'ai entendu dire ce matin, dit Newman.
Cela a-t-il quelque rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure ?
Demanda Nicolas.
Oui.
Alors au nom du ciel, mon bon ami, dites-le-moi. Je vous en prie en grâce. Songez à mon état déplorable. Et puisque je vous promets de ne pas faire un pas sans vous demander conseil, au moins venez en aide à mon embarras.
Sensible à cette prière, Newman se mit à balbutier une infinité de phrases incompréhensibles, embarrassées les unes dans les autres, dont la conclusion fut que Madame Kenwigs, qui l'avait sondé longuement le matin même sur la vie passée, les aventures, la généalogie de Nicolas, que Newman avait esquivé longtemps toutes ces questions, mais qu'à la fin, mis au pied du mur par ses instances, il était allé jusqu'à représenter Nicolas comme un professeur de grand mérite, victime d'accidents malheureux qu'il ne lui était pas possible de révéler, et qui portait le nom de Johnson, Madame Kenwigs, cédant ou à un sentiment de reconnaissance, ou à l'ambition, ou à l'orgueil maternel, ou à la tendresse de son cœur de mère, ou à ces quatre motifs puissants réunis ensemble, avait conféré secrètement à M. Kenwigs, et à l'issue de cette conférence, elle avait fini par proposer que M. Johnson enseignât aux quatre demoiselles Kenwigs à parler français, comme des Parisiennes pur sang, moyennant 6,25 francs par semaine, payable en monnaie courante du royaume. C'était donc à raison de 25 sous par tête. Il y avait un excédent de 25 centimes dont on ne parlait pas, en attendant que le nouveau-né pût en profiter en prenant lui-même une leçon de grammaire.
« Et ce ne sera pas long ou je serai bien trompée !» avait ajouté Madame Kenwigs en faisant cette proposition. « Car en vérité, Monsieur Nudge, il n'y a pas un enfant au monde qui soit né avec autant de dispositions plus heureuses que le mien. »«
Voilà, » dit Newman, « c'est là tout. Ce n'est pas digne de vous, je le sais, mais je pensais que vous voudriez peut-être... »«
Peut-être ?» s'écria Nicolas avec une grande vivacité. « Dites certainement, j'accepte tout de suite. Allez, mon ami, allez l'annoncer sans délai à cette digne mère et dites-lui que je suis prête à commencer aussitôt qu'elle voudra. »
Newman descendit l'escalier 4 à 4, tout rayonnant de joie pour informer Madame Kenwigs que son ami acceptait ses offres. Puis, il revint aussi vite rapporter la nouvelle qu'on désirait le voir au premier étage aussitôt qu'il pourrait. Madame Kenwigs venait à l'instant d'envoyer acheter une grammaire française d'occasion avec dialogue qu'elle visait depuis longtemps dans la boutique à 12 sous du bouquiniste du coin et que la famille, dans son enivrement de voir ajouter encore ce surcroît de considération à ses autres titres de distinction, serait bien aise que l'on commençât immédiatement la leçon d'installation. On nous dira peut-être que Nicolas n'était pas sieur, comme on le dit en pareil cas dans le monde. Cela est vrai. S'il s'agissait d'un affront s'adressant à lui-même, il s'y montrait sensible. Si c'était un autre qui en fut victime, il intervenait pour le venger avec autant d'audace ou de courage que jamais chevalier qui mit la lance en arrêt. Mais quant à cet excès de froideur hautaine et d'égoïsme magnanime, signe invariable auquel se reconnaît un caractère fier, selon le monde, il en était complètement dépourvu. Il est vrai que, pour ma part, nous serions plutôt disposés à regarder ces caractères comme un embarras dans les familles qui ont besoin d'aide. Cela tient peut-être à ce que nous avons eu l'occasion de rencontrer sur notre chemin de ces caractères dont la fierté consiste surtout à rejeter avec mépris toute occupation indigne d'eux, à cultiver avec soin leurs moustaches et à se donner des airs féroces. Je veux bien convenir que les moustaches et les airs féroces sont de bonnes choses en elles-mêmes, des titres très recommandables. Mais, pourtant, j'aimerais mieux qu'ils fussent nourris aux frais de leurs propriétaires, au lieu de se pendre au croc de ces gens méprisables dont on dit qu'ils ne sont pas fiers. Nicolas était donc de ces derniers. Et ce n'est pas un homme fier dans le sens vulgaire du mot,
Il regardait comme plus déshonorant pour lui d'emprunter pour ses besoins quelque chose aux modiques ressources de Newman Nudge que d'apprendre le français aux petites Kenwigs à raison de 25 francs par mois. Aussi accepta-t-il, comme nous l'avons dit avec empressement, l'offre qu'on lui faisait et se hâta-t-il de se présenter aussitôt au premier étage. Là, il fut reçu par Madame Kenwigs avec une grâce toute charmante, qui manquait peut-être de naturel et qui trahissait trop l'intention de se montrer pour lui une protectrice pleine de bienveillance. Il y trouva aussi M. Lillyvick et Miss Petowker. Les quatre demoiselles Kenwigs étaient sur leur banquette de réception et le nouveau-né dans un chariot ambulant qu'il poussait devant lui, s'amusant à jouer avec un petit dada sans tête, lequel dada se composait d'un cylindre en bois assez semblable à un navet, porté sur quatre chevilles crochues et peint de la couleur indécise d'un pain à cacheter rouge trempé dans l'encre de la petite vertu. « Comment vous portez-vous, Monsieur Johnson ?» dit Monsieur Kenwigs. « Mon oncle, Monsieur Johnson ?»« Comment vous portez-vous, monsieur ?» dit Monsieur Lillyvick d'un ton brusque. Car maintenant qu'il savait la nouvelle qualité de Nicolas, il se repentait sans doute de s'être compromis en faisant la veille au soir à Nicolas plus de politesse qu'un percepteur de taxes n'en doit à un professeur. « Voici Monsieur Johnson, engagé chez nous, mon oncle, comme maître particulier des enfants, » dit Madame Kenwigs. « Oui, vous venez de le dire, » répliqua Monsieur Lillyvick. « Mais j'espère, » dit Madame Kenwigs en se redressant, qu'elles n'en seront pas pour cela plus fières, qu'elles n'y verront qu'une raison de plus de bénir leurs heureuses étoiles qui les a fait naître dans une classe supérieure aux enfants du commun. Entendez-vous, Morlina ?
Oui, maman.
Et quand vous sortirez dans la rue ou ailleurs, vous ferez bien de ne pas vous en aller vanter aux autres enfants. Ou si vous en parlez, vous pourrez dire seulement « Nous avons pris un maître particulier pour nous instruire à la maison, mais nous n'en sommes pas plus fiers pour cela. » Parce que maman dit que c'est un péché. Entendez-vous, Morlina ?
Oui, maman.
Alors, n'oubliez pas mes recommandations et faites ce que je vous dis. Mon oncle, voulez-vous que Monsieur Johnson commence ?
Si Monsieur Johnson est prêt à commencer, ma chère, moi je suis prêt à l'écouter, dit le percepteur, prenant l'air d'un critique profond, consommé.
Comment trouvez-vous le français, monsieur ?
« Qu'entendez-vous par là, monsieur ?» demanda Nicolas.
« Trouvez-vous, monsieur, que ce soit une bonne langue, une jolie langue, une langue raisonnable ?»«
Pour être une jolie langue, je n'en ai aucun doute, » répliqua Nicolas.
« Et pour être une langue raisonnable, je le présume, car elle a des mots pour désigner toutes choses et des ressources de conversations élégantes sur toutes les manières. »«
Je ne sais pas trop, » dit monsieur Lillyvick d'un air capable.
« Trouvez-vous aussi que ce soit une langue gaie ?»«
Oui, » reprit Nicolas, « et très gaie, assurément. »«
En ce cas, il faut qu'elle ait bien changé, » dit le percepteur, « car elle ne l'était guère de mon temps. »«
Est-ce qu'elle était triste de votre temps ?» demanda Nicolas, qui avait peine à réprimer un sourire.
« Très triste, » dit Monsieur Lillyvick avec un mouvement d'humeur. « Je parle du temps de la dernière guerre. » « Je veux bien que ce soit une langue gaie, je serais bien fâchée de contrarier personne. Tout ce que je puis dire, c'est que j'ai entendu souvent les prisonniers français, et ceux-là étaient nés en France, et devaient savoir leur langue. Et ils parlaient ensemble d'un air si triste que cela faisait peine à voir. Pour cela, je l'ai vu plus de 50 fois, monsieur, plus de 50 fois. »
Monsieur Lillyvick s'enflammait tellement que Madame Kenwigs crut sage de faire signe à Nicolas de ne plus rien dire. Et il fallut toutes les petites cajoleries mises en usage avec le bon vieux gentleman, par Miss Petowker, pour qu'il se résignât à sortir de son silence boudeur, en disant « Comment dit-on « water » en français, monsieur ?»«
De l'eau, » répliqua Nicolas.
« Ah !» dit monsieur Lillyvick en hochant tristement la tête. « Je m'en doutais. De l'eau. L-O. Ah bien ! Voilà une langue dont je n'ai pas grande idée. » Pas grande idée.
Je suppose, mon oncle, que les enfants peuvent commencer, n'est-ce pas ?
Oh, certainement, vous pouvez les faire commencer, ma chère, repartit le percepteur d'un air mécontent. Ce n'est pas moi qui les en empêcherai.
Profitant de la permission,
Les quatre demoiselles Kenwigs s'assirent en rang, avec toutes leurs queues rangées aussi en bataille du même côté. Morlina en tête, pendant que Nicolas prit le livre et donna pour commencer quelques explications préliminaires. Miss Petowker et Madame Kenwigs ouvraient leurs oreilles toutes grandes, dans une admiration silencieuse, interrompue seulement à voix basse par la mère, qui assurait à sa belle amie que Morlina ne tarderait pas à savoir tout cela par cœur. Quant à Monsieur Lillivic, il contemplait le groupe d'un air maussade, quoique d'un œil attentif, car il épiait une occasion de recommencer quelque attaque nouvelle contre la langue qui n'avait pas ses sympathies.